الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Reconnaître le péché. L'excellence de la récitation de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour du jugement, il n'y aura pas d'ombre sauf l'ombre du arsh, c'est-à-dire le trône divin d'Allah Azza wa Jal. Trois personnes seront à l'ombre du arsh d'Allah Azza wa Jal. On lui demanda: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui seront ces gens? Il a répondu: la personne qui enlève la difficulté d'un de mes adeptes, celui qui fait revivre ma sunna et celui qui récite des salats sur moi en abondance. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad. La définition du péché. Question: quand le terme de péché est-il appliqué à une erreur? Par ailleurs, a-t-on un péché pour un acte d'oubli de la charia? Par exemple, une personne a mangé ou bu par oubli et erreur en état de jeûne, ou s'est souvenu d'une prière après que son temps se soit écoulé. Quelle est la décision sur de tels actes? Réponse: si une personne qui jeûne mange ou boit par oubli, son jeûne ne sera pas invalidé, et ce sera encore moins un péché. Si une personne se rappelle qu'elle jeûne et que de l'eau descend par erreur dans sa gorge en se rinçant la bouche, son jeûne sera invalide dans ce cas, mais il ne sera pas un pécheur. Cependant, il sera nécessaire de rattraper ce jeûne plus tard. Il en va de même pour la prière. Si quelqu'un a oublié d'accomplir la prière ou est resté endormi et que le temps de la prière s'est écoulé, il doit accomplir la prière dès qu'il s'en souvient, car il lui est maintenant obligatoire de la rattraper. Cependant, dans ce scénario, il ne sera pas pécheur pour avoir manqué la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, concernant celui qui a oublié de prier ou qui est resté endormi pendant un temps de prière, il doit l'accomplir lorsqu'il s'en souvient. Dans ce hadith, la personne qui dormait n'a manqué la prière qu'en raison de son sommeil, et il n'y a pas eu de négligence délibérée de la prière. Ainsi, nous sommes informés que la personne n'est pas pécheresse pour avoir manqué la prière. De même, si une personne ne s'est pas souvenue jusqu'à ce que le temps de la prière soit écoulé, elle ne sera pas pécheresse. Cependant, le rattrapage de cette prière manquée est nécessaire dans tous les cas. Quatre façons d'enlever la rouille du cœur. Question: si, à cause des péchés, le cœur devient noirci, rouillé et mort, comment peut-on enlever cette noirceur et cette rouille et le faire revivre? Réponse: en plus de la crainte d'Allah Azza wa Jal, avoir l'amour pour lui et pour son prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, est le plus grand et le plus efficace des remèdes pour enlever la rouille du cœur. Il ne reste plus qu'à identifier ce qui suit. L'aspect d'aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui éradique la rouille du cœur, et la forme de craindre Allah azza wa jal, qui nettoie le cœur de la saleté. Rappelez-vous, la signification de l'amour fait principalement référence à l'inclinaison du cœur vers quelque chose de favorable. En vertu de la crainte d'Allah Azza wa Jal et de l'amour de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une personne bénéficie d'une constance sur les actions mentionnées ci-dessous, la rouille du cœur se dissipe. Numéro 1. Récitation du noble Coran. Le noble Coran doit être récité avec contemplation et compréhension, tout en observant ses étiquettes. Ici, l'observation des étiquettes fait référence au fait de prêter attention aux mustahabbat, c'est-à-dire les actes recommandés, et aux règles de la charia, comme le fait de se concentrer entièrement sur le noble Coran pendant sa récitation. En réfléchissant à la parole divine, le récitant doit réciter comme s'il conversait avec Allah Azza wa Jal, et il doit sentir la lumière du noble Coran pénétrer son cœur et laver la rouille de celui-ci. Si quelqu'un récite le noble Coran tout en le contemplant de cette belle manière et en le comprenant, Insha'Allah, la rouille de son cœur disparaîtra très rapidement. Numéro 2. Le zikr d'Allah Azza wa Jal. De même, il faut accomplir le zikr, c'est-à-dire le souvenir, d'Allah Azza wa Jal avec réflexion, sans inattention, et être conscient d'être présent dans la cour d'Allah Azza wa Jal. En plus de réciter d'autres litanies, on doit se souvenir d'Allah Azza wa Jal avec les phrases suivantes: La ilaha illallah, subhanallahi wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, subhana rabbiyal azim, subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Il doit se rappeler les bénédictions d'Allah Azzawajal lorsqu'il effectue le dhikr. Les bénédictions de ce dhikr augmentent considérablement la lumière dans le cœur. Numéro 3, le souvenir de la mort. La mort, la tombe et l'au-delà sont trois sujets qui aident grandement à éliminer la noirceur du cœur. Lorsqu'une personne se souvient de la mort, son cœur s'adoucit. Lorsqu'il voit des tombes et réfléchit à la mort des autres, il se souvient de sa propre tombe. Il pense au fait qu'on le descend dans sa propre tombe et à la décomposition de son propre corps et son cœur s'attendrit. Lorsqu'il imagine les affaires de l'au-delà, être présenté dans la cour d'Allah Azzawajal, recevoir le livre de ses actes, la chaleur du jour du jugement, la soif du hashr, c'est-à-dire le rassemblement, la traversée du sirat, le pont, l'amour de ce monde, le plaisir des péchés et les désirs quittent son cœur. Grâce à cela, les voiles des ténèbres sont levés de son cœur. Cela est également appelé sharus sadr, c'est-à-dire expansion du cœur. Il est rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la lumière pénètre le cœur, celui-ci s'ouvre. On lui demanda: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, y a-t-il un signe à travers lequel cette lumière peut être identifiée? Il a répondu: oui. Se tenir à l'écart du lieu de la tromperie, c'est-à-dire le monde, se tourner vers la demeure permanente, c'est-à-dire l'au-delà, et se préparer à la mort avant son arrivée. Numéro 4. Compagnie des salihin, c'est-à-dire les vertueux. Être en bonne compagnie est l'étape la plus efficace et la plus pratique pour éliminer la rouille du cœur. Parfois, une seule bonne séance peut faire disparaître la rouille de toute une vie. Il existe des centaines d'incidents où le fait de s'asseoir ou de voyager avec une personne pieuse au cours d'un seul voyage a entraîné une transformation complète du cœur et l'obtention du succès dans le suivi de la sunna. Un tel changement majeur dans la vie d'une personne est en fait dû à l'élimination de la rouille du cœur. Car lorsque l'obscurité du cœur est éliminée, une telle douceur, une telle lumière et une telle illumination apparaissent qu'une personne se tourne immédiatement vers Allah Azza wa Jal et commence à traverser le chemin de la droiture. Grâce aux bénédictions de la compagnie des justes, une personne est bénie en craignant Allah Azza wa Jal, en développant l'amour pour lui et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en récitant le noble Coran, de la passion de se plonger dans le dhikr et les salawat, et du souvenir de la mort et de la tombe. En bref, si l'on s'attache davantage à être en bonne compagnie, il devient très facile d'acquérir tout ce qui précède. La bonne compagnie est rare, mais pas inexistante. Aujourd'hui encore, ceux qui cherchent vraiment sont bénis d'être en bonne compagnie. Si l'on ne peut trouver un individu vertueux avec qui passer du temps, l'opportunité de passer du temps dans un environnement de piété est néanmoins disponible, comme les ijtima'at hebdomadaires et les madani qafila de Da'wat Islami. Si une personne choisit de le faire, il y a bon espoir qu'Allah Azza wa Jal lui accorde les bénédictions de la bonne compagnie. La méthode pour reconnaître le péché. Question. Existe-t-il un moyen de reconnaître le péché afin de pouvoir s'en abstenir? Réponse. La première et principale façon d'identifier le péché est d'acquérir des connaissances. Il y a de nombreuses facettes à cela. Par exemple, si la définition du péché kabira, c'est-à-dire le péché majeur, est dans l'esprit d'une personne, elle connaîtra immédiatement la décision du péché dans de nombreux cas. De même, s'il connaît la définition du péché sarira, c'est-à-dire le péché mineur, il sera conscient de nombreux péchés. Par exemple, laisser un fard, c'est-à-dire un acte obligatoire, est un péché majeur, alors que laisser un wajib, c'est-à-dire un acte nécessaire, est un péché mineur. Cependant, la répétition d'un péché mineur est un péché majeur. La persistance à abandonner une sunna muqadda, c'est-à-dire une sunna soulignée, comme le fait d'abandonner à plusieurs reprises les quatre raka'at de la sunna avant le fard de zuhur, fait tomber une personne dans la sphère du péché. De même, les questions qui sont clairement interdites dans le noble Coran et les ahadiths sacrés sont des péchés, comme le suicide, la fornication, l'adultère et le meurtre de ses enfants. Allah Azza wa Jal déclare « Wala taqtulu anfusakum » Traduction « Et ne vous tuez pas en commettant un meurtre, un suicide, etc. » « Wala taqrabuz zina » Traduction « Et n'approchez pas de la zina, la fornication, l'adultère, c'est-à-dire les rapports illicites. » Wala taqtulu awladakum. Et ne tuez pas vos enfants. De même, la lecture de tous les versets où un commandement ou une interdiction a été mentionné spécifiquement permet de s'assurer que tel ou tel acte est inadmissible et haram. Par exemple, une personne peut réciter ce verset du noble Coran. Inna alladhina yujibbuna antashir al-fahishatu filladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal-akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Traduction. En effet, ceux qui veulent que le scandale se répande parmi les musulmans, il y a pour eux un châtiment douloureux dans ce monde et dans l'au-delà. Et Allah sait et vous ne savez pas. En récitant ou en entendant ce verset, une personne apprend que la propagation de l'obscénité est haram. De même, en récitant le verset suivant, on apprend que l'obscénité en soi est haram. Allah Azza wa Jal déclare وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَعْيِ. Traduction. Et interdit l'obscénité, le mal et la rébellion. De la même manière, en récitant le verset suivant, une personne prendra conscience de la règle concernant l'utilisation de la richesse des orphelins pour elle-même. Allah Azza wa Jal déclare إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Traduction. Ceux qui consomment injustement les richesses des orphelins, ils ne font que remplir leur ventre de feu, et bientôt, ils iront dans une section ardente du feu. Par conséquent, il est clair que la connaissance est nécessaire pour reconnaître le péché. Pour cette raison, réciter le noble Coran et les hadiths sacrés, les comprendre, y réfléchir, et étudier la littérature religieuse sont très importants et bénéfiques pour accroître ses connaissances. Outre les péchés mentionnés explicitement dans le noble Coran et les hadiths sacrés, les nobles savants ont également mentionné de nombreux autres péchés. Ils les ont constatés grâce à leurs connaissances et à leurs réflexions. Bien que le Coran et les hadiths ne mentionnent pas spécifiquement ces péchés, ils sont implicitement compris comme étant illicites. Par exemple, un verset du Coran stipule que les gens ne doivent pas ruiner leurs actes à cause du ria, c'est-à-dire l'ostentation. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'a an-nas. Traduction. Ô croyants, n'invalidez pas votre charité en vous vantant de faveurs et en provoquant l'angoisse, comme celui qui dépense ses richesses pour s'exhiber devant les gens. D'autres versets mentionnent également des actes ruinés à cause de l'ostentation. Cependant, les détails de l'ostentation et de ses diverses formes ont été extrapolés par les nobles savants. Il existe un livre appelé Az-Zawajir, composé de telles extrapolations, qui est très bénéfique à cet égard. Il a été traduit sous le nom Jahannam me le jane wale a'mal, publié par Maktabatul Madina de Dawat-e Islami. Un point qui ne coûte rien ici est qu'avoir des connaissances est une chose et agir selon ses connaissances en est une autre. Qui ne sait pas que la prière est obligatoire? Certes, tout le monde connaît l'obligation de la prière, mais un grand nombre de personnes n'accomplissent pas la prière malgré cette connaissance. Il est donc clair qu'il ne suffit pas d'avoir des connaissances. Il faut aussi être désireux de faire le bien et avoir la motivation et l'intention d'agir. Sans cela, la simple lecture de livres n'est pas bénéfique. Même les personnes qui ont lu tous les sirasita, c'est-à-dire les 6 livres d'ahadith auxquels on se fie, sont vues comme n'ayant pas la passion d'accomplir la prière ou d'accomplir d'autres actes de piété, ou ayant des lacunes dans d'autres domaines. C'est pourquoi, en plus d'avoir des connaissances, il faut également être pratiquant. Être motivé et avoir la crainte d'Allah Azza wa Jal dans le cœur sont très bénéfiques pour inciter à l'action. Ces deux choses peuvent être atteintes de deux manières. La première méthode. Il faut non seulement étudier les règles juridiques sur les questions, mais aussi lire les mérites des actions vertueuses et les avertissements associés aux mauvaises actions. Grâce aux bienfaits de ces lectures, le cœur s'éveillera et s'inclinera vers l'action. La deuxième méthode. il faut adopter la bonne compagnie car elle suscite l'ardeur de l'action. Sinon, la simple connaissance n'est pas suffisante dans la plupart des cas. Tranquillité du cœur. Question. Existe-t-il un lien entre le péché et le fait que le cœur soit satisfait ou mécontent d'une action particulière? Parfois, les gens agissent mal et lorsqu'ils sont corrigés, ils répondent qu'ils ont agi correctement parce que leur cœur est satisfait et qu'il n'y a pas de poids sur leur conscience. La tranquillité du cœur ou de la conscience est-elle la preuve que l'action accomplie est correcte et n'est pas un péché? Réponse. Il y a une certaine réalité à cela, mais ce n'est pas toujours le cas. Le détail est que le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit concernant cet état du cœur et de la conscience, Al-ithmu ma haka fi nafsika, c'est-à-dire le péché est ce qui crée le doute dans le cœur. Signifiant le péché est ce qui crée le malaise dans le cœur et la conscience de quelqu'un le considère mauvais et le reproche. Il faut noter un autre hadith à côté de celui-ci où le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Idha lam tastahi fasna ma shita, c'est-à-dire si tu ne ressens pas de honte, fais ce que tu veux. Le sens de ce hadith est que lorsqu'une personne n'a pas de honte et de pudeur, elle n'a aucun souci et fait ce qu'elle veut. Si l'état de quelqu'un est tel qu'il ne se soucie pas de la honte et de la pudeur, qu'il commet des péchés sans réfléchir et qu'il dit que sa conscience est satisfaite, alors la conscience de cette personne n'est pas prise en considération. En fait, la conscience d'une telle personne est morte. Aucune attention ne sera accordée au fait qu'une telle personne dise que son cœur est satisfait. Beaucoup de voleurs et de meurtriers diront de telles paroles et leur cœur sera satisfait. Ma'azallah, le vol et le meurtre deviendront-ils permis à cause de ça? Certainement pas. Un autre hadith fournit des indications concernant cette question. Le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka » c'est-à-dire « Laisse ce qui te fait douter pour ce qui ne te fait pas douter ». Ce qui signifie qu'il ne faut pas réaliser un acte qui fait douter. Par exemple, lorsqu'on doute du caractère licite ou illicite d'une action, il faut l'abandonner et choisir une option correcte et dénuée de tout doute. Afin de comprendre cela en profondeur, instillez ce qui suit dans votre esprit. Il y a certains actes pour lesquels la charia nous a clairement informés de ces règles. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné « Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa baynahuma mushtabihatun » c'est-à-dire « le licite est clair et l'illicite est clair et entre eux, il y a des choses douteuses. » Que doit-on faire dans ces sujets douteux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَمَنْ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ c'est-à-dire, celui qui s'est sauvé des affaires douteuses, il a protégé sa religion et son honneur. Le principe de la charia est que si la conscience de quelqu'un dit à propos d'un acte qui est clairement halal, selon le noble Coran et le hadith sacré, non, cette action ne semble pas correcte, aucune considération ne sera accordée à la conscience dans ce cas. Ceci est dû au fait que lorsque la religion a clairement rendu quelque chose halal, la conscience ne reçoit aucune considération. Oui, abandonner un acte mubah, c'est-à-dire permissible, à cause d'une raison extrinsèque, par exemple, est une question distincte. De la même manière, les actions que la charia a clairement qualifiées de pécheresse et de haram sont des péchés, et il est nécessaire de les abandonner. Si la conscience dit « faites ceci, il n'y a pas de problème avec cela », là encore, la conscience sera mise de côté et ne recevra aucune considération. Troisièmement, il y a les actions au sujet desquelles il y a un doute, et à la lumière de diverses sources, on ne sait pas si elles sont permises ou non. Il y a des différences entre les savants concernant ces actions. Ici, la charia a donné des indications selon lesquelles les sujets douteux doivent être évités. Celui qui s'en préservera protégera sa religion et son honneur. Les gens ne diront pas à propos d'une telle personne « regardez ce qu'il fait ». Et ni une telle personne sera affectée par l'incertitude. Ainsi, de cette manière, sa religion sera préservée car c'est une question de taqwa, c'est-à-dire de piété. De plus, il y a certaines actions pour lesquelles il peut y avoir une incertitude quant à savoir si on doit les faire ou non. Est-il correct de faire ceci ou non? L'esprit aussi dans les deux sens. En ce qui concerne ces actions, quelle personne est autorisée à suivre le verdict de son cœur et quelle personne ne l'est pas? Il existe des critères importants à ce sujet. Une personne qui n'a aucune honte, qui est téméraire en commettant des péchés et qui n'a aucune passion pour agir selon la charia ne devrait pas se référer à sa conscience en ce qui concerne les questions shari'i. À l'inverse, une personne peut agir selon la sharia, avoir l'état d'esprit d'éviter complètement les péchés et le faire effectivement, aimer les actions justes et les accomplir, et avoir un tel amour pour les actes pieux qu'elle éprouve de la joie, de la tranquillité, une illumination du cœur et la douceur de la foi. Si une telle personne était incertaine sur un sujet, il n'y aurait aucun problème si son cœur lui disait « fais cet acte ». Cela est dû au fait que la conscience d'une telle personne a atteint un niveau élevé. Cependant, trouver une telle personne est une tâche difficile, et se considérer à un tel niveau est un vœu pieux et équivaut à se jeter dans une rivière. Un cœur pécheur. Question. Dans le noble Coran, la phrase « son cœur est pécheur » est mentionnée. Cette affirmation est également mentionnée par les gens dans le langage courant. Que signifie le fait que le cœur soit pécheur? Réponse. Il existe de nombreux vices du cœur, tels que le kufr et le shirk, car ce sont essentiellement des péchés du cœur lui-même. En effet, la signification de kufr est inkar, c'est-à-dire le rejet de toute matière des zaruriyatuddin, c'est-à-dire les éléments essentiels de la foi. Inkar, le rejet, et tasdik, l'affirmation, sont liés au cœur. Iman est l'affirmation dans le cœur, et kufr est le rejet dans le cœur. Il existe de nombreuses actions associées à ce dernier qui ont été déclarées kufr. Cependant, la définition originale est qu'il y a un rejet dans le cœur à la place de l'affirmation. De la même manière, le shirk, associer des partenaires à Allah Azza wa Jal, est à l'origine une action du cœur en ce sens qu'une personne considère quelqu'un comme un partenaire d'Allah Azza wa Jal dans son cœur. Suite à cela, les manifestations de cette croyance deviennent évidentes. De même, l'hypocrisie est également associée au cœur, car une personne accomplit extérieurement toutes les actions d'un musulman. Elle jeûne et prie, mais l'affirmation est absente de son cœur. Il est donc très facile de comprendre que le kufr, le shirk et l'hypocrisie sont des péchés du cœur. En dehors de ceux-ci, il existe de nombreux autres péchés liés au cœur. Par exemple, le takabbur, c'est-à-dire l'orgueil, où l'on considère les autres comme bas et insignifiants, est une affaire du cœur. Le hasad, la jalousie, c'est-à-dire le fait de souhaiter le retrait d'une bénédiction d'un autre musulman, est un souhait qui se produit dans le cœur. Parfois, il se manifeste à l'extérieur et d'autres fois, il est gardé dans le cœur. De même, le ria, c'est-à-dire l'ostentation, est également lié au cœur. Elle naît certainement du cœur par lequel les gens souhaitent que les autres les considèrent comme de pieux adorateurs. Outre l'orgueil et la jalousie, la malice et la haine sont également des péchés du cœur. L'auteur de ces actions commet des péchés du cœur. C'est pourquoi, dans la nomenclature de la charia, on les appelle les péchés du cœur, c'est-à-dire les maladies du cœur ou les maladies spirituelles. Il est mentionné dans un hadith, « Il y a en effet un morceau de chair dans le corps. S'il est sain, le corps entier est sain, et s'il est corrompu, le corps entier est corrompu. Voyez, en effet, il s'agit du cœur. Si l'orgueil, la jalousie, la malice et la haine quittent le cœur et que l'on y fait entrer ikhlas, c'est-à-dire la sincérité, sabr, la patience, shukr, la gratitude, tawakkul, la confiance, yaqeen, la certitude, muraqaba, la contemplation, muhasaba, rendre compte de soi-même, et l'amour d'Allah Azza wa Jal, le cœur est rectifié. Par conséquent, si le cœur est rectifié, les membres le sont aussi. Si le cœur est corrompu par le fait que la sincérité s'en va et que l'ostentation entre, que l'humilité s'en va et que l'orgueil s'infiltre, que la bienveillance s'en va et que l'envie arrive, que l'amitié disparaît et que la malice et la haine apparaissent, alors tout le corps le devient. Par conséquent, une personne accomplit des actes qui ont pour conséquence l'ostentation, l'orgueil, l'envie, la malice et la haine. Définition de fasiq, c'est-à-dire transgresseur. Question. Qui est un fasiq? Réponse. Le mot fasiq est extrait du terme fisq. Fa, sin, qaf. Le sens linguistique de fisq est de sortir ou d'émerger. Dans la terminologie de la charia, cela signifie quitter l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Ici, deux choses sont à retenir. Les péchés sont de deux catégories, à savoir les sarira, les mineurs, et les kabira, les majeurs. Celui qui commet une fois un péché majeur est un fasiq, alors qu'avec un péché mineur, il devient un fasiq s'il le répète. Par conséquent, une personne qui commet un péché majeur ou qui commet un péché mineur de manière répétée sera considérée comme un fasiq. Il existe deux autres scénarios. Pécher ouvertement ou en secret. Si une personne pêche en secret, elle est qualifiée de fasiq ghair mu'lin, c'est-à-dire un pécheur caché. Et si elle pêche ouvertement, elle est appelée fasiq mu'lin, c'est-à-dire un pécheur flagrant, ou alors fajir. Il existe une autre catégorisation du fisq. La première catégorie est la transgression qui est au niveau du aqaïd, c'est-à-dire la croyance. Et la deuxième catégorie est la transgression qui concerne le a'mal, c'est-à-dire l'action. La transgression dans l'action a également été mentionnée dans le noble Coran. Par exemple, manger de la viande de porc a été qualifié de fisq, alors que la transgression dans les croyances a été largement mentionnée. En fait, les mots fasiq et fisq ont été mentionnés dans le noble Coran principalement en relation avec les hérétiques. Par conséquent, ceux dont la aqida est déviante sont fasiq en croyance et ont quitté l'obéissance à Allah Azzawajal en matière de croyance. C'est le cas par exemple de la secte des Qadariya, née à l'époque des compagnons radiyallahu anhum, rejetant le Qadr, c'est-à-dire le décret divin, et la secte des Jabariya, les fatalistes, qui est apparue en affirmant que les humains sont absolument contraints et n'ont aucun choix. De la même façon, il y a la secte Khawarij, dont le signe majeur a été expliqué par Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Ils appliquent aux musulmans les versets révélés sur les idolâtres. De nombreux Khariji, hérétiques, aujourd'hui encore, appliquent les versets révélés sur les idoles au noble prophète alayhi salat wa salam et au saint rahimahumullah. Ils prétendent que tout comme les idoles, les nobles prophètes alayhi salam et les saints rahimahumullah sont incapables de faire quoi que ce soit ma'adallah. De même, la secte Mu'tazila, les ultra-rationalistes, a existé. Ils ont donné des interprétations erronées et bizarres des sifat, c'est-à-dire les attributs divins d'Allah Azzawajal, et ont nié la punition de la tombe. De plus, plutôt que de considérer le kalam, le discours divin d'Allah Azzawajal, comme un attribut divin, ils s'écartent de la croyance musulmane dominante en croyant qu'il a été créé. En résumé, le sens lexical de fisq est sortir ou quitter, et dans la terminologie de la sharia, cela signifie quitter l'obéissance. Si quelqu'un commet un péché majeur ou s'il persiste sur un péché mineur, il est un transgresseur. S'il le commet en secret, il est connu comme un transgresseur caché. Et s'il le commet ouvertement, il est qualifié de transgresseur flagrant ou fajir. À cela s'ajoute une division similaire, transgresseur en croyance et transgresseur en action. Le jugement concernant l'obéissance aux personnes pécheresses. Question. Il arrive qu'un mari, des parents, un dirigeant, un enseignant ou un officier ordonne quelque chose qui n'est pas permis par l'islam. Quelle est la règle dans un tel cas? Est-il correct d'accepter leur commandement, surtout si celui qui commande est un parent ou un mari? Réponse. On ne peut obéir à la création que dans les choses permises. Au contraire, il n'y a pas d'obéissance à leur égard dans le péché. Le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué clairement dans un hadith « Innama at-ta'atu fil ma'ruf » c'est-à-dire « L'obéissance n'est que dans le bien ». Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La ta'ata li mahlouqin fi ma'siyatil khaliq » c'est-à-dire « Il n'y a pas d'obéissance à la création en ce qui implique la désobéissance à Allah ». De même, il est mentionné dans le verset du noble Coran وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِأُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Traduction. Et s'ils s'efforcent tous les deux, c'est-à-dire la mère et le père, de vous faire attribuer à moi une telle chose, ce dont vous n'avez aucune connaissance, alors ne leur obéissez pas et soutenez-les gentiment dans les affaires du monde. Et suivez le chemin de celui qui s'est tourné vers moi. Ensuite, c'est vers moi seul que vous retournerez et je vous informerai de ce que vous faisiez. Dans ce verset, les parents sont spécifiquement mentionnés et il est indiqué que s'ils vous ordonnent de commettre le shirk, vous ne devez pas leur obéir, mais vous devez les traiter correctement dans les affaires mondaines. Par conséquent, si les parents ordonnent un péché, il ne faut pas y donner suite. Par exemple, si les parents interdisent de garder la barbe, c'est un péché, et accepter leur commandement est aussi un péché car le prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, a donné le commandement de garder la barbe. Taillez les moustaches et faites pousser les barbes. Par conséquent, en opposition à Allah Azza wa Jal et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles ne seront pas acceptées, quelle que soit la personne. Explication des chuchotements sataniques. Question. Pourquoi les murmures sataniques se produisent-ils et quelle est la règle à leur sujet? Réponse. Le moi intérieur et Shaitan sont la cause des chuchotements. Shaitan insuffle des murmures sataniques dans le cœur depuis l'extérieur. Certaines personnes insufflent également des chuchotements à travers leurs paroles. Cela est mentionné dans le noble Coran. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Traduction. Ceux qui inculquent les mauvais chuchotements dans les cœurs des gens, parmi les djinns et les humains. Ce qui signifie que les djinns et les humains peuvent tous deux insuffler des murmures dans le cœur des gens. Lancer des murmures sataniques fait partie des actions majeures de Shaitan, car c'est ce que Shaitan fait principalement. Il lance des murmures de kufr et de péché dans le cœur des humains. D'autre part, il y a le nafs, le moi intérieur. Il est également une cause, pour une personne, de s'empêtrer dans les chuchotements. Ceux-ci sont connus sous le nom de vasavise nafsani, chuchotement du moi intérieur. Par exemple, durant le ramadan, malgré le fait que le shaitan soit enchaîné, les gens commettent des péchés. Le moi intérieur, qui devient fort grâce à son lien profond avec le shaitan, les initie, et ses murmures sont aussi efficaces que ceux de shaitan. De là, il est évident que les causes des chuchotements sont le moi intérieur et shaitan. Méthode pour reconnaître des chuchotements sataniques. Question. Comment peut-on identifier les chuchotements sataniques? Réponse. Afin d'identifier les chuchotements sataniques, il faut étudier le livre Minhajul Abidin de l'imam Muhammad al-Ghazali rahmatullahi alayh. En cela, l'imam rahmatullahi alayh a fourni un discours brillant sur la façon dont une personne peut identifier si les pensées qui viennent dans son cœur sont rahmani ou shaitani. En outre, il y a des points bénéfiques dans le livre Chuchotements sataniques et leurs remèdes du célèbre guide spirituel et leader d'El-Sunnah, Maulana Ilyas Attar Qadri Damat Barakatumul Aliya. Murmures sataniques et péchés. Question. Les murmures qui se manifestent dans le cœur sont-ils un péché? Réponse. Normalement, la pensée d'un péché vient dans le cœur d'une personne et elle l'écarte. Il n'y a pas de péché pour ces murmures. Cependant, il existe de nombreuses catégories liées aux pensées du cœur. Deux d'entre elles sont les suivantes. Numéro 1, azm, la ferme résolution, qui signifie une intention ferme. Une personne est punie pour une ferme résolution et on encourt un péché à cause de cela. C'est en raison de cette ferme résolution qu'une personne prépare les moyens de commettre un péché et déploie des efforts, même si elle est incapable de commettre le péché pour une raison quelconque. Par exemple, une personne peut quitter sa maison avec l'intention de voler. Cependant, pour une raison quelconque, elle ne peut pas commettre le vol. Par exemple parce que les gens sont réveillés ou que la police est présente. Dans ce cas, la personne sera coupable de péché parce qu'elle a pris la ferme résolution de commettre le péché. Chaque fois qu'il y a une ferme résolution de péché, la personne est coupable. Numéro 2. Une personne s'imagine en train de commettre un acte obscène. Dans ce scénario, une personne est également pécheresse. Bien traiter les proches. Question. Comment devons-nous traiter un parent qui nous maltraite? Réponse. Une question similaire à celle-ci fut présentée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un a mentionné que bien qu'il traite bien ses proches, ceux-ci le maltraitent. Il a demandé s'il devait continuer ainsi, c'est-à-dire s'il devait continuer à garder des liens avec eux et bien les traiter, ou s'il devait les traiter de la même manière qu'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit qu'il devait continuer sa bonne action. Les termes du hadith sont les suivants. Un homme a demandé « J'ai des parents avec lesquels je garde des liens, mais ils rompent les liens avec moi. Je les traite bien, mais ils me maltraitent. Je suis indulgent avec eux, mais ils agissent avec ignorance à mon égard. » Sur ce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Si tu es comme tu le dis, c'est comme si tu mettais des cendres chaudes dans leur bouche, et il restera, avec toi, un partisan d'Allah Azza wa Jal contre eux, tant que tu adhéreras à cela. Par conséquent, il faut supporter ce que les proches ont à dire et maintenir une bonne conduite. En fait, dans un hadith, il y a un commandement clair. Sulman qata'aka. C'est-à-dire, maintiens les liens avec celui qui coupe les liens avec toi. Ainsi, il faut tenter de joindre les liens avec les proches qui les coupent. Le résumé d'une déclaration de Bahari Shariat est présenté ici. Si les proches nous traitent bien et que nous faisons preuve de bonne conduite à leur égard, il s'agit simplement de rendre une politesse. Ce qu'une personne fait avec n'importe qui. Maintenir les liens de parenté, c'est joindre les liens lorsque les proches tentent de les rompre et de les traiter correctement lorsqu'ils vous traitent avec injustice. Cette question relève de la signification principale du maintien des liens de parenté. Si des proches sont injustes, disent du mal de vous et rompent les liens, vous devez essayer de les traiter correctement. Toutefois, il convient de faire preuve de sagesse dans ses relations avec eux en adoptant des stratégies afin de ne pas se placer inutilement dans une situation humiliante. Il faut faire des efforts de son côté et avoir l'état d'esprit suivant. Je ne supplierai que pour son bien. J'entretiendrai dans mon cœur un désir de bien à son égard. J'essaierai de lui faire du bien là où je peux. Je ne répondrai pas à son oppression par l'oppression et je ne répondrai pas de la même manière à ses propos injurieux. Oui, afin de vous préserver du mal de ces personnes, tenez-vous à une certaine distance d'elles et faites preuve de bonne conduite à leur égard de temps en temps. Explication des péchés du cœur. Question. Dans la charia, quelle est la signification des péchés du cœur, les péchés intérieurs? En outre, quelle est l'importance pour un musulman d'acquérir des connaissances sur les péchés du cœur? Réponse. Essentiellement, le principe concernant tous les péchés est le même. La décision sera différente dans chaque cas en fonction du scénario. Cela s'applique aux péchés qui sont batini, intérieurs, ou zahiri, extérieurs. Il existe de nombreux péchés auxquels une personne n'a pas accès. Par exemple, une personne qui n'a pas de parents n'est pas tenue d'apprendre la plupart des lois relatives aux droits des parents. De même, le hajj peut ne pas être obligatoire sur une personne, et donc, l'apprentissage des règles du hajj et des péchés qui peuvent survenir pendant celui-ci ne sera pas obligatoire pour cette personne. De la même façon, une personne peut être célibataire, et donc, apprendre les règles relatives à un conjoint et à des enfants ne sera pas nécessaire pour un tel individu. En dehors de cela, de nombreux péchés sont clairs, dont tout le monde a connaissance, comme le vol, l'oppression et le banditisme. Ce sont ces péchés dont tout le monde a connaissance. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de chercher des connaissances spécifiques à leur égard, sauf qu'il peut y avoir des détails supplémentaires concernant certaines questions dont une personne peut ne pas tenir compte, ce qui l'amène à pécher. Par exemple, tout le monde sait que le vol est interdit et constitue un péché. Mais si les sandales d'une personne sont volées dans une mosquée, en voyant une paire similaire, on suppose que le voleur a pris les miennes et a laissé celle-ci. La définition juridique du vol ne s'applique pas complètement ici. Cependant, dans tous les cas, c'est un péché, et d'un certain point de vue, c'est un vol. De même, l'échange de pantoufles à Mecca et à Médina est également inadmissible. Un autre exemple est de consommer les richesses des orphelins. Ceci est haram, et tout le monde en possède la connaissance. Cependant, après le décès d'un père, la nourriture du niaz du troisième jour, par exemple, est servie à partir de l'héritage des enfants orphelins. Or, ce khatam du troisième et du quarantième jour sont des actes de charité surérogatoires. Et bien que ceci soit permis en soi, il est inadmissible et c'est un péché de les organiser à partir de la richesse des orphelins. De plus, les orphelins eux-mêmes ne peuvent pas accorder la permission de manger cette nourriture car ils sont ghair baligh, c'est-à-dire prépubères. Et celui qui est prépubère ne peut pas donner la permission. Par conséquent, quiconque mange de la nourriture de ces rassemblements consomme la richesse des orphelins. Cependant, les gens ne font pas attention à cela. Dans cette affaire, le concept de base selon lequel consommer la richesse des orphelins est haram est connu par beaucoup, mais ces détails ne le sont pas. En outre, il existe de nombreux autres péchés qu'une personne ne peut éviter à moins d'en connaître les détails. Par exemple, tout le monde sait que certaines actions sont clairement des péchés commerciaux, comme la fraude, le mensonge, la trahison et la contamination. Néanmoins, il y a de nombreuses autres règles dans la charia en dehors de celles-ci qui sont appelées Uqud fasida, c'est-à-dire transaction défectueuse, c'est-à-dire de tels accords dans lesquels il y a un défaut selon la charia. Tous les individus ne connaissent pas ces détails. Par conséquent, il incombe à un commerçant d'apprendre les règles du commerce. S'il ne les apprend pas, il deviendra un pécheur. et comme résultat de ne pas apprendre, il commettra de nombreux autres péchés. Une autre catégorie de péché est le péché intérieur. 90% des formes de péché intérieur sont celles qui sont perpétrées en raison de l'ostentation et de l'amour de la gloire. Cependant, parce qu'il ne les connaît pas, l'auteur de ces péchés se rend même pas compte qu'il y est mêlé. Le résultat de la méconnaissance des péchés intérieurs est qu'une personne, bien qu'elle soit ostentatoire, dit « je ne suis guère ostentatoire ». Dans un autre exemple, considérant que les gens sont humbles et se percevant comme appartenant à l'élite, il dit « frère, je ne suis pas fier, ce sont mes serviteurs après tout, mes employés, voilà ce qu'ils sont ». Ici, l'orgueilleux considère les autres comme inférieurs. Cependant, il ne saura pas qu'il est orgueilleux et qu'il commet un péché. D'où la nécessité d'acquérir des connaissances sur les péchés. Le moyen d'y parvenir est d'étudier les livres religieux, de s'informer sur les péchés auprès des savants d'Ahl-Sunna, Qassarahumullahu ta'ala, et par d'autres voies de recherche de connaissances. Acquérir la connaissance des péchés. Question. Comment pouvons-nous acquérir une connaissance détaillée des péchés au lieu d'en avoir une connaissance superflue? Réponse. Une connaissance détaillée est certainement nécessaire pour de nombreux péchés, mais certains péchés sont tels qu'ils sont commis en pensant qu'il s'agit de bonnes actions. Prenons les exemples suivants. Premier exemple. La décision de la sharia, c'est-à-dire la sunna, est que les hommes doivent garder les chevilles exposées. Dans une tentative d'agir sur cette sunna, certaines personnes plient leurs vêtements inférieurs pour la prière, ce qui est un péché. En effet, le fait que les chevilles restent couvertes pendant la prière est makruh tanzihi, c'est-à-dire peu détesté, ce qui n'est pas un péché. Cependant, plier le vêtement inférieur est makruh tahrimi, c'est-à-dire prohibitivement détesté, ce qui est un péché. Deuxième exemple, amener des enfants à la mosquée est un bon acte. Cependant, il est interdit d'y amener de 6 jeunes enfants qui risquent d'uriner, de déféquer ou de causer des troubles et dont on sait qu'ils le feront. Par conséquent, amener de tels enfants à la mosquée est un péché. Gardez à l'esprit que celui qui les a amenés l'a fait avec beaucoup d'enthousiasme, considérant cela comme une bonne action. Cependant, en raison d'un manque de connaissance, cette personne a commis un péché. Il est clair que la recherche de la connaissance est nécessaire. Vivre sans elle n'est pas possible, et le fondement même de l'action est la connaissance. Par conséquent, recherchez la connaissance afin de ne pas finir par commettre des péchés tout en pensant faire de bonnes actions. Aider quelqu'un dans le péché. Question. Comment est-ce d'aider quelqu'un dans le péché? Réponse. L'interdiction d'aider quelqu'un dans le péché est clairement mentionnée dans le noble Coran. Allah Azza wa Jal déclare وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Traduction. Et ne vous aidez pas mutuellement dans le péché et l'injustice. Il s'agit d'une preuve textuelle définitive du noble Coran stipulant qu'il n'y a pas de permission d'aider un autre dans le péché. Le commandement est plutôt d'empêcher un autre de pécher. Il existe un hadith très fascinant à cet égard. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Unsur akhaka zaliman aw mazlouman » « Aide ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Les compagnons, radiyallahu anhum, demandèrent « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons aider celui qui est opprimé, mais comment pouvons-nous aider l'oppresseur ?» Il, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « En l'empêchant d'opprimer les autres. » C'est aider l'oppresseur, car cela est bénéfique pour son au-delà. Aider un pécheur signifie l'empêcher de commettre des péchés. Les personnes qui aident les autres à pécher sous la tromperie d'entretenir des amitiés, tout en pensant remplir les droits de l'amitié, devraient en tirer une leçon. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège tous de tout type de maladies intérieures et extérieures.